Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bonjour ou rebonjour aux uns et aux autres. Nous allons ouvrir notre Bible et puis faire une étude, une réflexion, si vous voulez. C'est le thème de notre sujet, je vais vous le livrer tout de suite à travers les références bibliques. Et je pense que je vais vous parler de quelque chose qui est très actuel. Je vais vous parler de Noël. Voilà. Alors, ça ne vous a certainement pas échappé lorsque vous allez dans un supermarché où nous voyons tant de décorations, naturellement, mais tant de jouets, tant de choses qui, naturellement, sont destinées aux enfants. Alors, les magasins sont un petit peu rétrécis parce que, les allées sont rétrécies aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'aimerais justement donner une réflexion sur la société dans laquelle nous sommes, le climat qui règne une fois dans l'année, et de pouvoir faire une comparaison entre ce dont il nous est parlé de la naissance de Jésus dans l'Évangile et nos temps actuels, qui, ça ne vous a pas échappé, n'ont plus rien à voir. Plus rien à voir. Alors, naturellement, ça donne un petit peu de gaieté à la vie, qui est si triste, surtout pour certains. Je veux bien dire, pas pour tout le monde. Et puis, il y a ce côté mercantile qui accompagne. Je ne suis pas contre de tout ça, mais je voudrais quand même replacer les choses dans son contexte, qui est avant tout... là, le souvenir que Dieu, dans sa grâce, a envoyé un Rédempteur, un Sauveur dans le monde, et aujourd'hui, tout a été modifié. On pourrait dire c'est la féerie de cette vérité qui est là. Jésus est venu, il est né, dans les conditions dans lesquelles nous est dépeint, cette... venu du Christ, et qui, n'a plus rien à voir avec la modestie de ce qui nous est rappelé dans l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu. Parce que ce sont ces deux évangiles qui nous rapportent ce que Dieu a fait. Alors, il s'est passé 2000 ans, naturellement, à travers tout cela. Et j'aimerais justement que nous plongions nos regards dans cette réflexion dans deux textes, dans Jean et dans Matthieu, et vous allez de vous-même faire la comparaison que ça n'a plus rien à voir avec le message évangélique. Et j'ai titré, j'aime bien donner un titre moi à mes messages, le temple hypermarché. On ne va pas se contenter d'une petite supérette, mais le temple hypermarché. Alors, on commence. Dans Jean, chapitre 2, verset 15, ou verset 13 plutôt, parce qu'on va voir le contexte entièrement. Alors, Jean, chapitre 2, verset 15, verset 13, je rectifie. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de brebis, de bœufs, de pigeons et les changeurs qui étaient assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Et les disciples se souvinrent de ce qui était écrit « Le zèle de ta maison me dévore ». Passons maintenant dans Matthieu chapitre 21. Vous allez retrouver, eh bien là, pratiquement la même chose, mais je voudrais conjuguer ces deux textes. Alors, Matthieu chapitre 21, versets 12 et 13. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » Connaissez ? Eh oui ! Alors, il est bien précisé dans Matthieu que c'est, eh bien là, la maison de Dieu, une maison de prière, et on ne va pas se tromper sur le fait. Les éléments du propos, c'est qu'il y a un lieu commun, le temple de Jérusalem, et maison de prière, parce que c'est là où on prie, c'est là où on adore, c'est là véritablement où le peuple uni se rassemble pour, eh bien, honorer Dieu. Alors, Jésus va aller au temple, et il va avoir ce sentiment qui peut être normal, hein, et on peut nous-mêmes bien comprendre la réaction de Jésus, l'exaspération de Jésus qui chasse les vendeurs impudents. On peut parler d'impudicité, là. Spirituelle. Oui, oui, spirituelle. Alors, il va renverser les installations des trafiquants. C'est un mot dont on parle beaucoup aujourd'hui, trafiquants, hein. Vous voyez à peu près à quoi je veux faire allusion. Les sièges, les tables, toutes les installations et tout le reste. Qui était devenu, nous dit le texte, une maison de voleurs, une maison de trafic. C'est très péjoratif, hein, quand il est parlé de vol, quand il est parlé de détournement, quand il est parlé de changer les choses en quelque sorte, de dénaturer les choses, voleur de trafic. Il y a une notion, et on va en reparler, une notion d'argent très marquée. Aujourd'hui, dans bien des domaines, en dehors du contexte dans lequel nous sommes en train de méditer, mais tout ce qui est marchandise, il y a les licites et il y a les illicites. Et puis, on sait très bien comment ça se passe. Jésus opère en ces lieux saints, des guérisons, il prêche, il se sert de la parole de Dieu pour dire ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est vrai et ce qui est faux, ce qui est pur et ce qui est impur. Ça, c'est en quelque sorte, eh bien, là, la fiche de conduite, le plan, en quelque sorte, que Jésus, auquel il se tient. Donc, des guérisons, il apporte la parole de Dieu. Et à un moment donné, il nous est dit dans un autre texte qui doit être proche de ce que nous sommes en train de lire, hein. Eh bien, il entend le chant des louanges des enfants. Ouais. Il entend le chant de joie des enfants. Et c'est les enfants, enfants purs, hein, enfants sans préjugés, enfants qui, quelque part, eh bien là, sont certainement émerveillés de la manière dont Jésus parle, à leur niveau, naturellement, hein. Ce sont des enfants, des mineurs, en quelque sorte. Et la comparaison qu'il y a entre le chant des enfants qui proclame la gloire de Dieu avec un cœur, eh bien là, innocent, Jésus constate un vrai bazar. Ouais. Un bazar. Un véritable champ de foire. Je ne sais pas si vous avez été en Orient, mais dans certains pays, et pas si loin de nous, les pays, autour de la Méditerranée, il faut quand même, dans les villes, aller visiter les bazars. C'est intéressant. Pour ceux qui sont allés à Jérusalem, c'est immense. Et puis, il y en a encore des beaucoup plus grands, hein, naturellement. Mais alors, il y a tout. Hein. De tout. Lorsque nous avons fait le bazar de Fès au Maroc, alors, c'était vraiment très impressionnant. Il y a d'abord des petites ruelles. Et puis, de tous les côtés, on voit à peine le ciel, parce qu'il y en a en bas, il y en a en haut, il y en a partout. Alors, tout se mélange, hein. les cuirs, les parfums, les têtes de chameaux qui sont suspendues parce qu'on les mange. Voilà. Et puis toutes sortes de choses, quand vous êtes rentré dedans, vous demandez comment vous allez vous en sortir. Alors c'est assez crispant, hein, tout ça. Hein. Un bazar, un champ de foire. Et c'est le désordre le plus complet. C'est vrai. On peut avoir des angoisses hein, quand on descend dans le bazar. Ça, c'est certain. Et Jésus, à ce moment-là, va avoir une réaction, qui est une réaction de colère. Une réaction qui n'est pas notre colère à nous, mais en raison de ce qu'il est, lui, trois fois saint, en raison de son message qu'il apporte pour, désinfecter et assainir, hein, en raison, de ce qu'il voit, il va se constituer un fouet, tout simplement, de cordes. Et c'est un rappel, finalement, de la flagellation, mais ça, je suis en train d'anticiper sur un autre épisode de la vie de Jésus, tout simplement, qui avait été ordonné par Pilate pour fouetter, finalement, les condamnés et fouetter, certainement, Jésus. Un fouet de cordes. C'est dur, c'est tressé, très serré, et c'est un instrument de supplice en quelque sorte. Alors aujourd'hui, le temps est passé, bien que dans certains pays ça existe encore. Hein. Soit avec du bois, ou alors avec tout simplement des cordes tressées et un fouet tout simplement. Dans le décor s'ajoutent des bœufs, c'est pas toujours très propre. Naturellement, des brebis, et puis des pigeons qui étaient la plus petite offrande. Celui qui avait de l'argent pour honorer Dieu, il pouvait offrir un bœuf. Il pouvait offrir, peut-être une brebis. Et puis, les plus pauvres, ils faisaient, mais ça avait la même valeur, naturellement. Hein. Mais c'était très sélectif, hein, en raison de la fortune des uns et des autres, des pigeons. Et puis, il y avait, naturellement, ça ne peut pas aller sans, des monnayeurs, des gens qui font du trafic, à leur table de changeur, et qui là, pour un achat d'un animal ou autre chose, il y avait tout un trafic d'argent, des billets peut-être, ou des pièces, plutôt des pièces, hein, et qui étaient là en exposition, et puis on peut s'imaginer le décor. Et puis naturellement, il y avait toutes sortes d'autres marchandises. Et Jésus va rentrer dans ce monde-là. Je vous ai parlé des supermarchés qui sont des temples de la consommation. Vous ne l'avez pas oublié. Et vous avez remarqué que tout est occupé, les places. Hein, tout dans les rayons, dans toutes sortes de choses. Et puis, pour en ajouter, il y a des têtes de gondole. Hein, mais pas celles de Venise. Parce que si vous voulez couler, ça n'a rien à voir. Hein. Non, voilà. Donc, des têtes de gondole. Il y a des promotions, il y a toutes sortes de choses. Vous savez que la loi judaïque interdisait d'offrir un animal qui était boiteux ou aveugle, etc., etc. Donc de la première qualité. Il faut bien le dire. Et tous faisaient ça avec cœur, parce que la loi le prescrivait. Mais la loi, elle donnait véritablement un sens à ce qu'on pouvait offrir dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, c'est différent. Et je pense que celui qui offrait, une brebis, par exemple, tout simplement honorait Dieu. Mais quand il y a insuffisance ou quand il y a excès, ça devient pernicieux. Ça devient vicié. Et quand Dieu donnait dans l'Ancien Testament ce qui n'est pas notre dispensation aujourd'hui, mais néanmoins, on s'aperçoit que l'homme n'a pas d'équilibre sur la terre. Et même pour les choses de Dieu. Ça s'en va dans un sens, ça s'en va dans un autre. Et nous voyons que devant toute cette manifestation, devant peut-être ce mouvement, cette motivation d'honorer Dieu, il y avait une grande culpabilité. Ils étaient tous coupables, dans un sens ou dans un autre, d'être en dessous ou au-dessus. Et il y avait profanation de ce qui avait été finalement déterminé au départ pour la gloire de Dieu, et tout ça a été vicié, tout ça a été profané, parce que c'était supposé rendre un culte à Dieu, Et Jésus, quand il a vu ça, il a dit, on va faire du nettoyage. Enfin, je ne sais pas s'il se l'est dit, mais ça a été certainement spontané en disant, mais c'est pas ça. Moi, je suis le fils du Père, le Père céleste, et vous, avec vos religions, avec peut-être même vos bonnes intentions, parce que la sincérité n'est pas la vérité, hein, toujours. Il faut faire attention à ça, hein. Parce qu'on voit autour de nous comment ça se passe. Les gens disent, mais moi, je suis sincère dans ce que je fais. Dans ma religion, je suis sincère. Dans les prescriptions qui me sont données, je suis sincère. Mais ce n'est pas forcément ce qui va être honoré par Dieu. Parce que c'est fait, finalement, dans toutes sortes de corrections incorrectes, fausses. Et on en est là, et Jésus va chasser tout ça pour dire, on remet tout à zéro. On met les comptes à zéro. Cette ambiance n'est que la réalisation prophétique de ce que Dieu avait donné à travers Moïse et puis les grands hommes. Ce zèle dévorant, parce que vous savez, la religion, elle n'est pas absente du zèle. Il y a un zèle, Paul le dira, en parlant des pharisiens. Ils ont du zèle, mais sans intelligence. Parce que ce qui donne de l'intelligence à tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous voulons et par quoi nous voulons honorer Dieu, eh bien, la seule intelligence qui est véritablement reçue de Dieu, c'est quand elle est, eh bien, là, accompagnée de l'action du Saint-Esprit, et non pas des idées farfelues, des traditions humaines, de toutes sortes de choses. Jésus va le condamner, naturellement, dans Matthieu chapitre 23. Alors, ce zèle dévorant et fanatique religieux, le temple est transformé en haut lieu irrévérencieux. Au lieu d'apporter l'honneur, ça apporte le déshonneur, autant sur les personnes ignorantes ou qui ne veulent pas savoir, et qui sont pris dans la tradition et ont fait parce que nos parents l'ont fait, parce que nos ancêtres l'ont fait, et on ne veut pas changer parce que c'est comme ça. Alors, des hauts lieux de trafic, et écoutez bien, ou recettes, ou l'argent, et les affaires font bon ménage. C'est terrible. Parce que rien n'a changé en 2000 ans. Les Juifs, pendant les siècles de la dispensation de l'Ancien Testament, étaient tombés dans ce piège. Et le christianisme, depuis l'ascension de Jésus au ciel, eh bien, le monde entier religieux, qui plus est le christianisme, eh bien, fait exactement la même chose sous d'autres formes. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Judaïsme et christianisme, deux régimes différents. L'un s'effaçant pour être remplacé par l'autre. Nous ne sommes plus sous la loi, mes frères et sœurs. Ça, vous l'avez entendu pendant quelques années que j'étais avec vous. Non. Nous savons que ça, c'était le règne de la loi. C'est-à-dire que le devoir, l'obéissance était absolue. Et ne laisser aucune place à l'amour, le don du cœur par amour pour Dieu. Alors on pouvait toujours acheter, on pouvait toujours trafiquer ceci et cela, on était content de mettre peut-être là de l'argent dans le tronc du temple de Jérusalem, etc., etc., et on pensait, et c'est vrai que ça pouvait paraître bien. Et tout cela, et je pense que vous ne me démentirez pas, ça ouvre la porte au paganisme, aux mondanités religieuses qui ont toujours existé et que Dieu a condamné très sévèrement dans l'Ancien Testament. Le paganisme, c'est-à-dire le monde, c'est-à-dire finalement, adapter la foi, je ne parlerai pas de la foi, je parlerai plutôt d'une certaine croyance et piété, et de modifier finalement les choses. Le paganisme, c'est une chose qui existe de par le monde, hier et encore aujourd'hui. Moi, je ne veux pas faire de l'anti-religieux, primaire. Et je vous l'ai dit, je vous le redis encore. Mais je veux m'attacher. Et j'aimerais tellement que chacun d'entre nous, nous soyons débarrassés de nos vieilles religions, de nos vieilles croyances, de nos vieilles façons de faire, en ce qui concerne la piété, pour véritablement vivre quelque chose de nouveau. Le devoir... D'accord. Les traditions, d'accord. Mais lorsque les traditions et le devoir s'inscrit dans l'esprit de l'Évangile, accompagné et transformé par le Saint-Esprit en nous. C'est pour ça que Jésus s'est mis en colère. C'est pour ça qu'il a balancé un peu les choses en disant « Mais arrêtez avec ça. Vous n'honorez pas mon Père dans les cieux, mais vous le déshonorez. Et moi, vous me déshonorez aussi parce que je suis venu pour apporter une nouvelle dispensation. » Ouais. Paganisme, hier et aujourd'hui. Donc, Jésus fait un fouet. Alors, ce n'était pas pour taper sur le dos et sur la tête des gens. Hein. C'était surtout pour... ça lui servait de balai, excusez-moi. C'est un petit peu grossier ce que je suis en train de dire, mais ça lui servait de... Voilà, sur les tables, hein, je pense qu'il a peut-être tapé sur les animaux, parce que bon, voilà, c'est comme ça. Mais les coupes où il y avait de l'argent, de la monnaie, tout ça, ça a dû voler. Hein. Et puis les autres, ils devaient regarder en disant, ben, il est en train de faire sauter la banque, là. Hein. Eh oui. Parce que ça lui servait, il ne l'a pas fait avec ses mains, il l'a fait avec un fouet, parce que bon, ça lui donnait pour un bon, et bien là, le geste. Et nous voyons qu'il nettoie les lieux qui devaient être des lieux d'honneur. Il va nettoyer les lieux, tout simplement, de la honte, là où elle n'aurait pas dû exister. Et elle existe encore aujourd'hui dans nos cathédrales, dans nos chapelles, dans nos églises, voire même peut-être évangéliques. Et là, ce n'est pas tout à fait très bien. C'est même pas bien du tout. Parce que nous nous endormons dans certaines traditions, nous nous endormons dans certaines choses. Et on le fait parce qu'on l'a fait avant nous. Et on enseigne nos enfants à le faire après nous. Non, la conversion, c'est une transformation de notre vie. Tout simplement, radicalement. Changer d'état d'esprit. Nous sommes devenus des nouvelles créatures dans une nouvelle création. C'est tout le message de Jésus, naturellement. Et nous voyons que nous avons de tristes exemples qui sont décrits dans l'Écriture sainte. Écoutez, j'en prends un, par exemple, dans le dernier livre, parce que là, il clôt quand même toutes les turpitudes du monde. Dans Apocalypse, chapitre 18, permettez-moi tant simplement de lire ceci. C'est la vision d'un grand nettoyage aussi, à la fin des temps. « Je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, « elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que les nations ont bu du vin de la fureur de sa débauche. » Et les rois de la terre se sont livrés avec elle à la débauche. Et les marchands de la terre, marchands, se sont enrichis par la puissance, tout simplement, de son luxe. On vit dans une époque luxueuse. Hein. Enguirlandée. Avec toutes sortes de choses où, véritablement, eh bien, là, le beau, que l'on veut offrir avec de l'or et de l'argent à Dieu. L'or est à moi, l'argent est à moi, tout est à moi, dit Dieu. Alors, on peut lui faire des cadeaux. Hein. Vous n'avez jamais pensé lui faire un collier ou une bague ou un truc comme ça en or? Oui, ça ne sert à rien. Et pourtant, que de grandes belles choses, les hommes, avec l'art, l'industrie, avec toutes sortes de choses. Moi, je ne veux pas en critiquer, mais... Bon, on est en train de ramener... il y a eu le feu quelque part, là, dernièrement. Hein. Ça coûte cher, mais ça va faire travailler des gens, et c'est bien. Parce que ça va développer, finalement, eh bien, des créations et des artistes. Mais une chose qui est certaine, vous savez, Dieu, il n'est pas dans ces lieux-là. Hein. Les hommes sont dans ces lieux-là, mais Dieu n'est pas dans ces lieux-là. Dieu est au ciel, dans son temple, et un temple où il y a immaculé. Et pas dans ce que les hommes peuvent lui faire et lui donner. Et on découvre toujours qu'il y a collusion entre religion et trafic d'argent. Bon, j'espère que je vais vivre jusqu'à la fin de l'année, moi. Par la grâce de Dieu. Mais ce sont des choses à dire. Combien de textes dans écrits par l'apôtre Paul où il est question de l'argent au cœur même de l'idolâtrie de la piété. Et ce n'était pas seulement d'aujourd'hui, mais c'était d'hier également. Hein. Alors, collusion entre religion et trafic d'argent, entre croyances superstitieuses. Parce que si je me rends à tel endroit, dans ce lieu magnifique, chargé d'or et d'argent, de pierres précieuses, je vais y recevoir quelque chose, là où il y a des statues magnifiques. Oui, collusion. Et la superstition. Parce que j'y vais pas pour Jésus-Christ, j'y vais pas parce que je suis mu par les enseignements de Jésus, qui me défendent certaines choses, mais j'y vais parce que j'ai des besoins, ça peut se comprendre. C'est vrai. Mais il y a quand même une certaine méconnaissance de ce que Dieu nous a enseigné. Tu feras ceci, tu ne feras pas ça, etc., etc. Sans parler des 10 commandements, parce que bon, maintenant, c'est fini tout ça. Hein. Alors, entre croyances superstitieuses et le monde des affaires qui portent un nom. Alors, moi, j'aime pas le nom, parce que c'est quelque chose qui est connu dans nos sociétés. Alors, c'est très péjoratif, hein, ce que je vais dire. Hein. Moi, je ne l'aime pas non plus. Parce que ça peut nous concerner, nous aussi, hein, chrétiens évangéliques. Ce sont les bondieuseries. Ouah ! Alain, il nous choque. Hein. Ouais. Mais c'est pourtant une réalité. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une bondieuserie par rapport à ça. Et ne pensez pas que ce sont que les religions traditionnelles. Ça peut nous arriver, nous aussi. Hein. Avec nos petites habitudes, avec nos petites manies, avec toutes sortes de choses où, quelque part, on se refait une religion nous-mêmes. C'est la vulgarisation de quelque chose, d'une... Moi, j'ai regardé dans le dictionnaire. Hein. C'est la définition, c'est la dévotion outrée, hein, c'est scandaleux, hein, d'objets de piété au goût douteux qui donne aux formes extérieures de la religion à travers des aspects traditionnels ou sentimentaux. C'est pas l'esprit, hein. Sentimentaux, c'est l'âme. Eh bien là, une forme de bigoterie. Ça, c'est dur. Et Jésus, moi, je pense que c'est ça ce qu'il est révolté. Ouais. Vous avez changé les commandements de Dieu au profit de votre tradition, nous dit Jésus, dans je ne sais plus quel texte, en effet, quel chapitre, mais peu importe. Parce que la bigoterie, c'est de la superstition, amène au mysticisme. Et on finit par refaire ce que les Juifs faisaient pendant 2000 ans ou 2500 ans, hein, du temps de l'Ancien Testament, eh bien, les, alors je vais le dire en hébreu, Bahama. Vous savez ce que c'est que Bahama? C'est tout simplement les hauts lieux. Vous l'avez trouvé souvent dans votre lecture. Ils montèrent sous un arbre vert, sur une colline, et ils construisaient des hauts lieux. Et vous savez la signification du haut lieu? C'est tout simplement quelque chose qui est vain. Quelque chose qui n'a aucun intérêt, ni pour Dieu, et que l'homme ne sait même pas ce que ça veut dire. Voilà. Alors il le fait. Il le fait parce qu'il y a une tradition, parce qu'on lui a demandé de le faire, parce que c'est en guise de bénédiction et tout ça. Et ils offraient des parfums, non pas à Dieu, les Juifs, hein, mais ils l'offraient à celui qui est l'ennemi de Dieu et l'ennemi de l'homme, pour les amener à être véritablement dans une errance spirituelle, une errance religieuse. Alors, ce que nous sommes en train de dire, eh bien là, il y a comme une sorte de réflexion, d'étude dans le contexte du texte. Nous parlons de Jésus dans le temple, hein, naturellement. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le judaïsme. Nous n'y avons jamais été si nous ne sommes pas juifs. Peu importe. Mais nous sommes passés... Eh bien là, dans une autre dimension qui est le christianisme. Et un christianisme qui a subi tellement d'altérations. Vous savez, je viens, moi, d'une religion où on nous a appris tout ça. Pour ceux qui sont nés dans les milieux évangéliques, vous ne savez pas. Enfin, c'est pas pour... valait mieux pas le savoir, hein, finalement. Mais vous avez poussé sur un terrain qui était propre, un terrain qui était vierge. C'est le terrain de l'évangile, vous avez été enseigné. N'oubliez pas d'enseigner vos enfants dans la vérité de l'Évangile. Mais pour ceux qui ont passé des années dans une certaine religion qui est dominante dans nos pays latins, et bien d'autres parts dans le monde, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on nous a appris tout ça. Et il fallait s'en dégager. Hein. naturellement. Vous savez, quand on lit la Bible, elle relate quelques épisodes mémorables, voire scandaleux. Le peuple hébreu est libéré d'Égypte d'une manière extraordinaire, miraculeuse, surnaturelle. Ils sortent après un esclavage de 400 et quelques années de la férule de Pharaon. Ils passent la mer Rouge à pied sec. Ils reçoivent les 10 commandements qui sont le cadre finalement de la vie religieuse, on peut dire ça comme ça, la vie morale d'Israël. Et qu'est-ce qu'ils font tout de suite après? Ils font un veau d'or. J'espère que, mesdames, vous êtes venues avec vos bijoux ce matin. Parce que je vais vous faire une proposition. Moi, je voudrais bien partir au sport d'hiver, cet hiver. Alors, bon, j'aurais peut-être pas assez. Ça vous fait rire, hein? Vous savez comment ça se passe? Ouais. Le veau d'or. Le grand scandale de tous les temps. Alors, ils ont fait le veau d'or. Oh là! Dieu était prêt à sortir son fouet. Hein. Heureusement qu'il y a eu un homme comme Moïse, en disant « pardonne-leur ». Et on pourrait peut-être continuer, comme Jésus à la croix qui meurt, « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Or, ils savaient ce qu'ils faisaient, puisque ça avait été dit. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Et là, on remplace Dieu par une bête, un veau, un bœuf. Ah, il est en or. C'est ce qui lui donne la valeur, hein. Il y a Judas, le traître, qui va vendre son maître, qui va vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. Je vous le livrerai si vous me donnez ceci et cela. Bah, vous pensez que les autres, ils se sont empressés de dire, mais fais ce que tu veux, mais fais vite, hein, parce que il faut absolument qu'on arrête ce fameux Jésus. Il y a Simon le magicien qui dit à Pierre et à Jean, « Eh bien, donnez-moi votre don, je vais vous le payer. » Et comme ça, moi, je serai quelqu'un qui va être... Je vais avoir ma renommée. Il y a Démétrius. Ça vous dit quelque chose, Démétrius? C'est le bijoutier du coin, à Éphèse. Orfèvre. Et qui va faire des statuettes de la grande Diane d'Éphèse. Artémis, en grec. Et nous voyons que là, eh bien... Il va faire des statuettes pour les vendre. Et Éphèse, la ville d'Éphèse, dont il nous est parlé dans la Bible, va être une des villes les plus réputées dans le monde d'alors pour l'idolâtrie, l'occultisme, la magie à travers ces petites statuettes. Et je peux vous dire que Démétrius, c'est une véritable industrie. Voilà. Et puis, au lieu de d'autres pèlerinages, alors le mot pèlerinage, ça va vous rappeler quelque chose, des temps toujours actuels, en plein essor, en commerce lucratif. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? Le temple prétendu de Dieu, ou le temple prétendu construit pour Dieu, aux allures et à l'ambiance d'hypermarché. Alors, on a cité quelques cas, là, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Système instauré et bien établi, c'est le business de la foi marketing. C'est un mot qui est courant maintenant. Hein? Ah oui, c'est quelque chose. Il y a eu une révolution dans les années 50-60, après la Deuxième Guerre mondiale, où là, eh bien, c'est les Américains qui ont inventé le système, parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein. Et le système de marketing. Et vous savez, c'est toute une philosophie. Hein. C'est tout un contexte qui nous amène à ce que nous sommes aujourd'hui dans la consommation, dans le consumérisme, et qui fait que finalement le bonheur, il n'est que dans l'argent. Il n'est que dans l'acquisition. Il y a des addicts, finalement, de la consommation. Il y a des gens qui sont accros, qui sont drogués. Et c'est bien notre monde. Et sans ça, on ne peut pas être heureux. Eh bien, sans ça, on se rend malheureux. Et ça commence déjà pour les petits. Noël, c'est bien ça, c'est l'ouverture, c'est la porte d'entrée, naturellement. Et puis après, plus on va grandir, il faut... Il y a eu un enrichissement dans notre monde, mais qui est basé sur ce genre de concept. Et on veut que tout le monde soit heureux. Et est-ce que l'argent rend heureux? Non. Alors, quand vous en avez, vous en voulez toujours, vous en avez toujours davantage. Quand vous en avez, vous avez peur de le perdre. Et quand vous n'en avez pas, vous regardez les autres en disant « si j'étais riche ». Eh oui. Alors, ça n'en finit pas d'un côté ou d'un autre. C'est pas le bonheur, hein. Quoi qu'il en soit. Business, la foi marketing. J'ai eu l'occasion de lire, hein, il y a quelque temps. C'était à l'hôpital, ça m'a passé le temps. Hein. Le marketing évangélique. Ou là, maintenant, dans les églises, ben, vous ne le voyez peut-être pas trop, hein, ici, parce que bon, il y a encore quand même un esprit français qui... On n'est pas des Américains. Mais vous avez des congrès, vous avez des forums, vous avez toutes sortes de choses à une grande échelle, comme peut le présenter naturellement, eh bien, des grands messes, on pourrait dire, évangéliques, où là, vous avez vraiment des supermarchés. Alors, avec ceci et cela, vous pouvez acheter des t-shirts où il y a marqué Jésus. Vous pouvez acheter toutes sortes de choses. Alors ça, c'est pour nous. Alors là, c'est beaucoup plus grave pour nous que pour ceux qui ont peut-être une culture catholique. Mais il y a aussi dans tous les domaines, partout où il y a la religion. Et on s'aperçoit que tout se monnaie. La foi marketing qui est dénoncée, eh bien là, par la parole de Dieu, mise en garde, et son verdict est sans appel. C'est l'association des croyances cultuelles. Alors on met tout ensemble, mais il faut partir avec quelque chose, il faut partir. Moi je suis allé, c'est pas moi, hein, mais je le dis, moi je suis allé dans telle et telle réunion, tel ou tel rassemblement, mais je suis revenu avec ceci, je suis revenu avec cela. Alors c'est vrai, il peut y avoir des Bibles de vendues, moi je suis pas... Il peut y avoir de bons livres qui sont vendus, qui ramènent finalement les gens à la parole de Dieu. Mais il y a également, dans la littérature évangélique, il y a du poison. Et on a perdu des gens, quelquefois, parce qu'ils se sont dit, voilà, moi, ça ne bouge pas trop dans mon église. Hein, on s'ennuie dans notre église. Mais j'ai découvert tel homme, telle femme qui a écrit ceci et cela, et qui vous ouvre le ciel, hein, et qui vous font perdre la tête. C'est quelque chose. Des croyances indignes, qui se mélangent de culturel, de marchandage, de politique, d'économie, de superstition, de superficialité, et le dévoiement faisant la marque de fabrique, ou la marque de fabrique, c'est Jésus. C'est pas Marie, c'est pas ceci, ou tel saint, parce que ça existe dans ce monde. Mais pour nous, c'est Jésus. Mais qu'est-ce que l'on fait de Jésus ? Moi, je porte Jésus dans mon cœur et non pas sur ma poitrine, sur un t-shirt. Non, je vous le montrerai pas parce qu'il est neutre. Mais c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Où les gens... On a eu une époque, mes amis, mais vous l'avez connu pour les anciens, où on mettait sur notre arrière de voiture « Jésus vous aime ». Il y a ceci, cela, Jésus était partout. Hein. Jésus revient. Ah bon ? Et on s'est baladé avec ça, et puis après ça a disparu, parce que c'est comme toutes les modes. Mais on nous a fait avaler ça, et on faisait de la publicité pour ça. Moi, je ne l'ai pas fait, en tous les cas. Ouais. Et on essaie d'inventer toutes sortes de choses, parce qu'il y a quelque chose à prendre. Alors, on veut faire de l'évangélisation, c'est pas ça l'évangélisation. Non, c'est pas ça l'évangélisation, c'est autre chose. L'évangélisation, nous la portons dans notre vie, par notre vie, et non pas derrière, finalement, des adhésifs. C'est dur, hein, ce matin. Mais c'est dur pour moi de le dire aussi. Hein. Alors, la marque de fabrique Jésus a des fins de s'enrichir des choses saintes pour acquérir de la prospérité et en faire un fonds de commerce qu'on appelle du clientélisme évangélique. Sans pouvoir distinguer les pseudo-croyances de la religiosité et de la vie de l'esprit. C'est très secret, hein, la vie de l'esprit. C'est très intime, c'est très subjectif, mais c'est pourtant la vérité, la vie de l'esprit. Ce n'est plus moi qui conduis mon existence, c'est le Saint-Esprit qui donne à mon âme eh bien, ce qui m'est nécessaire pour vivre dans l'équilibre et qui également conditionne mon corps. Ouais. Pour ça que nous sommes le temple du Saint-Esprit dans notre corps, dans notre âme. C'est tout à fait logique, naturellement. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs, parce que tout se vend et il y a toujours des petits malins qui, sous le couvert d'une bonne intention religieuse, de piété, de foi, qui vont là et bien sont prêts à sauter sur tout ce qui bouge. Mais comme dans le monde, moi je suis étonné des découvertes que les hommes, avec leur intelligence, avec là maintenant l'intelligence artificielle, on n'est pas sortis. Hein. Parce que ça va beaucoup plus loin que nous. Hein. Je vais terminer. Le merchandising de ce que Dieu a offert par pure grâce. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ah, ça, c'est imparable. Et nous allons faire, pour terminer, la morale, enfin une morale, nous allons donner une morale plutôt, et en parallèle, un parallèle. Le cœur des hommes est un temple en esprit et en vérité. Comme Jésus le dira dans Jean, devant la Samaritaine, il faut que les vrais adorateurs, les vrais, pas les faux, les vrais adorateurs, adore le Père, adore Dieu en esprit et en vérité. Ça, il faut remettre ça en place. Il y a un nettoyage indispensable qu'on appelle la nouvelle naissance. Mais ce n'est pas une fois dans notre vie, c'est tous les jours. Parce que vous savez, hein, la poussière et puis les traces, ça revient très vite. Hein, parce que c'est naturel pour nous. Tout effort du chrétien qui veut se changer lui-même, est vaniteux et inutile, pour plaire et acheter quelques faveurs à Dieu. On a parlé des offrandes, des édifices de prestige dans lesquels on peut se rendre pour honorer Dieu. Les sacrifices sanglants, Ancien Testament, non sanglants, c'est pour nous, et marchandages et petites combines. Et oui. Vous savez que Jésus s'est pris de tête, on peut dire ça comme ça, dans un langage trivial, si vous voulez. Mais il s'est pris de tête avec les pharisiens en disant « Mais vous êtes des gens, mais extraordinaires, dans la méticulosité de votre expression de foi. Vous êtes en train d'observer toutes sortes de choses qui étaient inutiles pour Jésus, mais vous payez la dîme de la nette, de commencer, qu'est-ce qu'il y avait encore hein, il y avait toutes sortes d'herbes. » Et ils le payaient avec une grande méticulosité. Pour eux, c'était un blasphème de ne pas le faire. Mais Jésus dit, qu'est-ce que vous avez à faire avec des herbes? Avec des herbes et tout ça. C'est vous qui avez inventé. Vous avez changé la tradition de Dieu au profit de votre tradition. Au profit de votre tradition, bien sûr. Alors, vous savez que dans Éphésiens, je le rappelle, parce que je le rappelle souvent, ça, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Vous savez? Par le moyen de la foi et pas de la loi, pas du mérite, pas de ce que je peux faire moi-même humainement parlant, mais par la foi. Et la foi, c'est quoi? Elle me repositionne que tout ce que je suis en tant qu'homme n'a aucune valeur, sinon la foi, la confiance que Jésus est mort à ma place, qu'il s'est substitué à moi parce que je ne pouvais pas y arriver, je ne pouvais rien faire, et que maintenant je crois que c'est lui qui l'a fait pour moi, et je suis libre. Je suis affranchi. Afin que cela ne vienne pas de vous, parce que ce n'est pas de nous, mais que Dieu nous a recréés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, les vraies, qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions, mes frères et sœurs. Mais tout est grâce et tout est foi et non mérite pour se faire valoir ou faire valoir quelques bonnes œuvres, méritant récompense, est une offense à Jésus et une offense à la parole de Dieu qui nous dit le contraire. Et dans une sainte colère, Jésus a pris un fouet indigné de ce détournement ignoble de la piété évangélique, et bien là, est un principe odieux de rachat. Et dans Psaume 49, vous connaissez le texte, il est dit ceci, en parlant des hommes et des religieux, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et il n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours, ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subiront d'âge en âge. Non, on n'est pas sauvé par une religion. tutelle évangélique, si vous voulez. On est sauvé parce que nous croyons à Jésus-Christ, à sa parole, et on garde sa parole pour la vivre en étant précédé par le sacrifice que Jésus a accompli. Et c'est pour ça qu'il dira, « Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et les dernières paroles de la croix, « Tout est accompli. » Alors pourquoi vous tourmenter? Pourquoi avoir des angoisses? Pourquoi essayer de faire plus que Dieu vous demande de faire? Soyez vous-même. Vivez votre foi. Recevez sa paix. Recevez sa joie. Et vous vivrez heureux. Eh oui. Je termine sur un dernier mot. La relation qu'il peut y avoir entre l'argent et la religion. C'est une indissociable alliance. Vous le regardez dans toutes les religions, chrétiennes et non chrétiennes. Les marchands du temple, dont nous avons parlé il y a un instant, se comprennent dans les affaires qui sont cachées dans le monde séculier, hein, laïque si vous voulez, hein, tout simplement. Alors ça passe dans le monde. Hein, je vous ai parlé des temples de la consommation là à l'extérieur, mondain, naturellement. Mais ça devient une affaire scandaleuse lorsque ça touche le religieux, la dévotion, l'exploitation de la piété. Et on comprend que Jésus était une sainte colère. Parce que tout cela altère, dénature, hein, la foi évangélique selon les enseignements bibliques. Et les choses étaient prévues déjà à l'avance, parce que quand le petit enfant est né, a été présenté dans le temple, il nous est dit que le prophète, c'était un prophète, le vieil homme, là, vous savez comment il s'appelait Siméon, dira à Marie, « Voilà un homme en devenir qui produira la contradiction parmi le peuple. » La contradiction, c'est ce que Jésus a fait là, hein. Vous avez Jésus dans le temple, encore en devenant un homme. Il était peut-être déjà un peu plus âgé, un adolescent. Il nous est dit dans l'évangile de Luc que ses parents le cherchaient. Ils l'ont cherché pendant 3 jours. Et qu'est-ce qu'il faisait Jésus pendant ce temps-là? Il était assis parmi les sommités théologiques, parmi les pharisiens et les docteurs de la loi et tout ça. Il les écoutait et il les enseignait. Eh oui, pour nous montrer que déjà les choses étaient prêtes. Et puis l'abomination de l'abomination, je termine sur 2 Thessaloniciens, où il est dit cette parole, parce que là, on est dedans, hein, et on va y arriver de plus en plus, et ça se prononce de plus en plus avec les événements que nous sommes en train de vivre actuellement. Entre les grandes religions telles que le catholicisme, l'orthodoxie de l'Est de l'Europe, à travers bien d'autres mouvements qui se réclament de Dieu, qui se réclament de Jésus-Christ, il est dit à un moment donné, dans les derniers temps, que personne ne vous séduise, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie, le rejet de la vérité, on est dedans, soit arrivé auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, vous savez qui c'est, hein, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce que l'on adore. Il va s'asseoir jusqu'à, dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mes frères et sœurs, je vous laisse à la réflexion ces paroles. Je me suis efforcé de rester biblique et évangélique avant tout. Alors, vous savez, ouvrons les yeux, regardons ce qui se passe autour de nous, parce que tout ça ne manquera pas d'arriver. Alors, Jésus, eh bien là, nous a parlé finalement d'un hypermarché qu'est le monde, et même au niveau, eh bien, des grandes institutions religieuses, eh bien, soyons-nous fidèles au Seigneur, pour vivre la vie de l'Esprit pleinement et entièrement. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que les plus belles choses qui nous sont laissées dans l'Évangile, eh bien, en effet, ont été dénaturées. Noël, Pâques, hein, la Pentecôte, tout ça, ça a été trafiqué. Et nous voulons croire, Père éternel, que notre approche, c'est avant tout une approche où nous épousons, eh bien là, vraiment, les pensées que Christ nous a laissées. Et Seigneur, ce n'est pas dans la gloire, ce n'est pas dans une fierté, Ce n'est pas dans une recherche de gloriole, mais c'est dans la simplicité de nos cœurs que nous devons réapprendre et vivre, finalement, eh bien, la vérité qui est en Jésus-Christ. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Merci, tu bénis ton peuple et tu nous donnes vraiment de rester attachés à ton enseignement, à ta parole. Et nous croyons que ce fait même, eh bien, est là pour nous rendre heureux et nous rapprocher de toi dans une communion, eh bien, excellente qui nous préparera pour le ciel, qui nous prépare pour le ciel. Merci Jésus. Amen.